Marcel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres. Général de brigade de l'Estrin, Charles-Georges Antoine, officier général doué d'une vigueur physique qui ne le cède en rien à ses hautes valeurs morales, dont le rayonnement a une influence directe sur ses subordonnés, de même par sa magnifique attitude militaire, est un exemple permanent pour nous tous. Général Weygand, le 23 août 1940.
Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Bonjour Pauline. Et bonjour à toutes et à tous. Par cette belle journée de septembre, nous voilà début septembre, et nous avons écouté Gisèle qui nous a lu un extrait historique militaire. J'ai pas bien compris, à quel généraux vous
Général Weygand.
Général Weygand, oui. Et ceci est pour qui?
Alors, pour le général de l'Estrin.
Général de l'Estrin. Et voilà, nous sommes donc en 2019, début septembre 2019, et il y a 75 ans, voilà. C'était donc le 4 début septembre 1944,
oui.
Eh bien, la ville de Bourg-en-Bresse se libérait, on va dire se libérait, puisqu'il n'y a pas eu d'engagement majeur. C'était donc la libération. Et cette année, c'est le 75e anniversaire. Donc, il est bon, et la ville de Bourg le sait, elle a tout bien préparé.
Il y a des commémorations.
Commémoration, mmh. Voilà. Et il nous a paru juste de rappeler qui était non le général Weygand, mais surtout le général Charles de l'Estrin. N'oublions pas à Bourg que l'ancienne rue de la gendarmerie est maintenant la rue générale de l'Estrin, et qu'il y a en quelques années, la société d'émulation de Lain a fait apposer sur l'immeuble où habita ce général une plaque pour que l'on se souvienne passant
de son passage.
De son passage. Mm-hmm. C'est là qu'il résida du mois de juillet 1940 au mois de novembre, début novembre 1942. 42, et ensuite pour aller à Lyon, s'installer à Lyon, d'où il partit ensuite pour Paris, et pour, hélas pour ne plus revenir. Donc il a une citation du général Weygand qui le félicite. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette citation? Le courage moral, l'abnégation, les valeurs militaires.
Mais il était tout, c'était comme ça, c'était bien.
Voilà.
On dépeint bien le général tel qu'il était, parce que c'était un homme de courage.
Un homme de courage.
Et qui ne se reniait jamais.
Et qui ne se reniait jamais, et qui ne se renia point jusqu'au bout,
jusqu'au sacrifice,
jusqu'au châtiment suprême, va dire. De l'Estrin, ce n'est pas un nom de la région, c'est un nom qui nous vient du Nord.
C'est
un homme du Nord, la région de Lille. Lille. Il n'est pas né à Lille, mais près d'Arras, un petit village qui s'appelle Biache-Saint-Vaast, avec W2AST-UV, près d'Arras, le 12 mars 1879. Et il fut assassiné en avril 1945, exactement le 19 avril 1945.
Oui, il n'a pas été exécuté, il a été assassiné.
Non, assassiné. Assassiné, balle dans le dos, 10 jours avant l'arrivée des éléments américains de la 45e division.
C'est terrible, ça.
Qui avait débarqué en Provence. Mm-hmm. Et cette division, comme le rappelle le Progrès ces temps-ci, avait traversé donc notre cité. Voilà, remontant vers l'Alsace et vers l'Allemagne, non sans difficulté, mais avec beaucoup de courage et d'aplomb. C'est donc un général qui vient, général de l'Estrin, qui va se retrouver burgien, par le plus grand hasard.
Oui,
par le plus
parce
grand
qu'il
hasard.
Il a suivi
un de ses amis.
Amis, oui, c'est ça.
1870-1940, on reviendra un peu sur ces longues idées. 1940, fin juillet 40, la France est bien en très mauvaise posture, on va dire. Nous avons perdu, nous sommes occupés par l'Allemagne.
C'est une partie de la France. Oui.
Paris a été occupé le 14 juin 1940. La France est coupée en deux, et donc, que faire? Et le général va quand même, c'est un spécialiste des chars, c'est important.
C'est parce que il voulait absolument faire entrer les chars dans la guerre,
voilà.
Et ils n'étaient pas tous d'accord.
Vous avez tout dit, c'est bien, vous avez très bien préparé, bravo. Il aurait aimé ça, il vous aurait pris comme secrétaire.
Bien sûr.
Et alors, lui, il est de l'infanterie en réalité, de l'Estrin. Mmh. Il a fait la Première Guerre mondiale dans les bataillons de chasseurs à pied. Et puis après, durant sa longue captivité, car il a été captif, il a été en Allemagne, prisonnier, du 31 août 1914 au début décembre 1918, ça fait long.
Justement, c'est ça qui le rendait malade, parce qu'il a été plus longtemps en captivité qu'il n'a exercé sur les champs de bataille,
c'est
ça.
Tout à fait, et oui, il a été, il s'est battu admirablement au mois d'août, mais il est tombé fin août 14 dans une embuscade et il s'est retrouvé prisonnier. Et il faut savoir que dans les camps allemands, les officiers français ne travaillaient pas en vertu des accords de La Haye. Et donc, ces officiers se retrouvaient là complètement désœuvrés.
Donc, ça lui a permis de travailler un peu son esprit.
Voilà, il a travaillé son esprit. Il y en a qui pouvaient s'y faire, d'autres ne pouvaient pas s'y faire.
C'était son cas.
Ça tournait à la dépression pour certains, être prisonniers, ensuite être privés des siens, peut-être malade ou blessé, on ne sait pas. Mmh. Et pendant 4 ans, rester, avoir des journées à rien faire. Le général de Gaulle aussi a connu ça. Pendant 32 mois de captivité, au début, il faut accuser le coup, c'est pas facile. Et puis de Gaulle a rebondi, si vous voulez, et il a récupéré ce temps libre pour pouvoir lire, méditer, écrire, travailler.
C'est ce qu'a fait aussi de l'Estrin.
Et c'est ce qu'a fait de l'Estrin qui
s'est mis... Donc il a permis d'apprendre des langues.
Oui, il s'est mis à l'anglais et au russe.
Oui, c'est ça, oui.
Il s'est mis à l'anglais et au russe. Il a pu améliorer, parfaire sa connaissance de l'allemand, qu'il avait déjà étudié très tôt. Et oui, et puis il avait fait des études de droit aussi, quand il était Saint-Cyrien quand même. C'était quelqu'un qui... C'était une pointure, comme on dirait aujourd'hui. Donc le voilà prisonnier à Plassenbourg, un camp avec beaucoup d'officiers français. Et lui, il ne va pas rester dans son coin à méditer, à refaire le monde, peut-être le soir en discutant, pourquoi pas. Mais comme vous dites, il a travaillé. Et les Allemands leur fournissaient les livres.
C'est ça.
Beaucoup de livres. Et même certains camps de prisonniers avaient des conventions avec l'université suisse de Lausanne. C'est important parce que Lausanne, c'est la Suisse romande, donc on parle français. Et donc les Allemands faisaient venir des livres et des professeurs suisses parlant français pour que ces officiers français puissent en même temps se cultiver et puis aussi garder le moral.
C'est ça, surtout.
Donc là, il y avait un côté un peu, même s'ils étaient l'ennemi, un côté humain, un peu, et je dirais même plus humaniste.
C'est vrai.
Humaniste, voilà. Et donc, le voilà à Bourg. Il y a eu 1914-1918, toujours dans l'infanterie. Après, il avait médité, il s'intéressait à l'artillerie d'assaut, c'est-à-dire les ancêtres des chars. Il se rendait compte que peut-être l'ère des cavaleries, des grandes charges, était finie, avec des armes très modernes, comme les mitrailleuses, qui tiraient parfois 600 coups à la minute, les chevaux, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et, il y avait aussi les barbelés, qui étaient terribles.
Ça.
Les barbelés, ça ne nous semble pas évident, mais ils ont...
Il fallait les faire tomber, ces barbelés.
Les barbelés, ils avaient vu ça, les agents allemands, et quelques Français avaient vu ça aux États-Unis lors de la guerre de sécession. Ils s'en servaient pour parquer le bétail, mais aussi ils s'en servaient aussi pour se protéger. Et c'est terrible, les barbelés, quand on tombe dedans. Et puis alors, comme vous dites, il fallait quelque chose, un engin qui écrase tout ça. Et oui, donc, le temps changeait et il s'est passionné pour les chars.
C'est ça.
Pour les chars, les Anglais aussi, très tôt les Anglais. Ils appelaient ça des tanks.
Tank, oui.
Un tank, en anglais, c'est un réservoir.
C'est un réservoir, oui.
C'est un mot bizarre, c'était pour induire en erreur les agents allemands qui étaient en Angleterre. Un tank, nous on dit un char, mais on dit les tanks aussi, quoi.
Oui.
Et alors après, eh bien, il s'est dit, je vais demander, il a fait des stages après 1918-1920, et il est entré, il a quitté l'infanterie pour se retrouver dans l'arme blindée.
Les blindés.
Les blindés, parce que s'est aperçu que le feu adverse y tuait aussi, en vie. Le colonel Pétain l'avait déjà dit très tôt, mais on ne l'avait pas entendu. Le lieutenant de Gaulle l'avait dit aussi, mais on ne l'avait pas entendu. Il y avait le général Étienne aussi. Quelques généraux avaient compris que le feu tue. Eh bien oui, et non pas en charge avec le clairon, le pantalon rouge, taratata, et tout va bien. En face, il y avait les autres qui attendaient méticuleusement, etc.
Et eux avaient des chars.
Ils avaient, au début, ils avaient quelques chars, mais c'est surtout les Anglais qui avaient des chars. C'est surtout les Anglais, les Allemands, après, ils ont utilisé ça.
Oui.
Et ils ont utilisé ça de première main lors de la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça.
Donc, en 1920-1921, il va faire un déstage à Versailles. Et puis, il va demander à quitter l'infanterie et être versé dans les blindés.
C'est-à-dire
dans les blindés. Oh, ils ne sont pas nombreux parce qu'on ne veut pas trop innover chez nous. Et puis, on veut être une armée défensive. Ben, il y a eu 4 ans de guerre, avec des millions de morts.
C'est vrai.
Les gens, la guerre, ils en ont assez, ils ne veulent pas que cela recommence. On souhaite que ce soit la der des der, et on ne veut pas avoir une politique militaire offensive. On veut rester quand même, pas en arrière, mais...
Un peu neutre.
Un peu neutre, oui. On veut se défendre au cas où, alors qu'en face, les Allemands vont se relever assez vite, malgré la défaite, malgré l'armistice, où quand même ils rentrent chez eux avec armes et bagages, peinards et tranquilles. Ça, encore autre chose à voir. Et donc, il est dans les chars d'assaut. Et puis, il va se bagarrer, mais dans les ministères, pour essayer de faire comprendre que l'avenir est dans les chars.
Oui, parce qu'ils ne voulaient pas le comprendre.
Ah non, nous, on ne voulait pas le comprendre. On en était restés on était en retard d'une guerre. Ça, c'est bien français, malheureusement. Alors que de l'autre côté du Rhin, au contraire, ça travaillait. Le colonel de Gaulle avait publié des livres très importants vers l'armée de métier.
On en avait parlé lors de notre dernière émission.
Un certain Hitler a fait traduire le livre tout de suite. Et en France, ces bouquins ne se sont pas trop vendus, alors qu'outre-Rhin, l'état-major allemand était au courant, était inondé de tout ça. Ah oui. Et donc, comme vous avez dit, le voilà dans les chars, ceux de l'Estrin.
C'est véritablement une révélation, ces chars, pour lui.
Oui, c'est une révélation. Il voit ce que les Anglais ont fait, des gros chars qui écrasaient tout, qui avançaient. En 1917, en France, à Berry au Bac, on avait mis les chars, mais c'était vraiment précurseur. C'était très dangereux, c'était pas fini. C'était
très léger, ces chars.
Des prototypes.
Oui, c'est ça.
Ils prenaient feu tout de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Ensuite, les Anglais ont continué, les Allemands ont été surpris, mais ça les a intéressés en songeant à après-demain. Voilà, c'est le peuple d'avant-hier et d'après-demain chez eux.
Toujours.
Et donc, entre les deux guerres, eh bien, de l'Estrin, il monte, il gravit les échelons. Le voilà général, il va avoir même le colonel de Gaulle sous ses ordres à Metz.
C'est vrai.
À Metz, en 1932, il est colonel, il commande le 505e régiment de chars de combat de Vannes jusqu'en 1936. Il est promu général de brigade à Metz, il commande la 3e brigade de chars et il a sous ses ordres le lieutenant-colonel de Gaulle. C'est le 107e RCC. Donc déjà...
Régiment des chasseurs de...
Régiment de chars de combat. Régiment de chars de combat. Et puis donc, ce qui est très ironique, très curieux, eh bien, le colonel de Gaulle commande ce régiment sous les ordres de Delestrin. Et plus tard, avec la résistance...
Ça va basculer.
Et le général le général de Gaulle sera à Londres et puis le général de Lestrin deviendra chef de l'armée secrète. Il sera à la retraite, il aura repris du service et l'histoire se retrouve, mais comme vous dites, à l'envers, car il part à la retraite le 11 mars 1939 et il est dans les cadres de réserve le 12-03-1939, puisqu'il était né, on l'a dit, le 12 mars 1879 à Biache-Saint-Vaast. La maison natale n'existe plus au village, tout a été détruit par la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et oui, c'est le nord, c'est la voie rêvée pour les invasions.
C'est ça, oui.
C'est normal. Tout le nord est plat et toutes les invasions chez nous
sont passées par là.
Il n'y a pas de frontière naturelle. Il n'y a rien qui arrête. Voilà. Et donc, ce général...
Qui est à la retraite.
Et en 1940, il va être rappelé.
C'est ça.
Il va être rappelé parce qu'en 1939, on en a parlé récemment, avant-hier, hein, 1er septembre 1939... Hein, les nazis se dirigent sur la Pologne.
Oui.
Et puis ensuite, ils vont malheureusement régler le sort de la Pologne très rapidement avec des armes modernes, avions plus chars d'assaut, qu'avait prévu un peu de Gaulle. Surtout les chars, l'aviation, il avait moins regardé. Mais voilà. Et puis après, les Allemands vont s'arrêter. Ils ont eu quand même quelques pertes. Et puis, ils vont rafistoler tout ça pendant 8 mois.
C'est ça. C'est ce qu'on appelait la drôle de guerre.
La drôle de guerre. C'est marrant. Un drôle de guerre.
Parce qu'ils étaient tous sur le pied de guerre, mais il n'y avait pas de guerre.
Il n'y avait pas de guerre. On se regardait. Les Allemands appellent ça Sitzkrieg, c'est-à-dire littéralement la guerre où on est assis, on ne bouge pas.
C'est ça.
On ne bouge pas. Et nous, on dit drôle de guerre.
Drôle
dans le sens de étrange, bizarre, et pas drôle où on rigole. Là, on rigole pas tellement. Mais on ne s'en rend pas compte. Et le 10 mai 40, vendredi 10 mai 40, boum, c'est l'orage. Et donc, il va falloir essayer de colmater les brèches.
Oui, parce qu'il y a quand même une division qui est complètement anéantie.
Voilà, les Allemands avaient des divisions blindées, qu'ils appelaient légères. Et puis, un peu avant, ils les ont baptisées divisions blindées. Ils en avaient plusieurs, bien rodées, bien armées, aguerries. Travaillant en synchronisé avec l'aviation. Ils avaient beaucoup d'avions. Bon, ils faisaient la guerre à fond. Quand ils font quelque chose, c'est à fond. Eh oui. Et alors que nous, on avait des chars aussi. On n'était quand même pas les mains nues.
Oui, on n'était pas complètement désarmés. Mais enfin, bon, nos chars étaient très légers et on n'en avait pas beaucoup non plus.
Et même certains chars français étaient meilleurs que les Allemands.
C'est vrai.
Même, bah oui. Seulement, on les a mal utilisés.
C'est ça.
Voilà. Au lieu de faire, les Allemands ont fait, disons, 3 paquets de 1000 chars, nous, on a fait 1000 paquets de 3 chars.
Oui, c'est ça.
Voilà la différence. Et donc, les chars français étaient en accompagnement de l'infanterie, alors que les Allemands, ils ont mis devant les chars, l'infanterie
à l'arrière
qui était transportée. Hein, l'infanterie, ils étaient habillés légèrement, en short, en chemise, manches retroussées. C'était des sportifs.
C'est vrai.
Nous, on avait tout le barda de la guerre de 14. Avec une chaleur intense, les pauvres gens, ils transpiraient comme tout. Bref, ça a été des conditions difficiles, mais on s'est quand même bien battu, on a quand même eu 100 000 tués.
C'est vrai.
Hein, quand même, les Allemands ont reconnu que les Français s'étaient bien battus pendant 6 semaines. 6 semaines, on a résisté, mais le renard était déjà dans la basse-cour.
C'est ça, voilà.
C'est ça le drame. Et donc, notre général de Lestrin, il n'est pas encore à Bourg, mais ça va bientôt arriver, eh bien, il combat. Il reprend du service et on a 4 divisions blindées de réserve. Ce sont des réserves toutes neuves. Est-ce qu'ils sont bien entraînés? Pas trop. Mais bon, c'est le drame pour nous. La première est neutralisée en quelques heures. La seconde, elle s'en tire très difficilement.
Oui.
La troisième, un contre-ordre vient la stopper alors qu'en réalité, elle aurait fait un malheur. Et la quatrième, c'est celle qui va être commandée par De Gaulle. Il va faire ce qu'il peut. On manque d'essence aussi.
Ah oui,
On manque de tout. Les avions allemands maîtrisent le ciel. Ça fait que, bon, on va mettre un genou à terre.
C'est ça.
Et de Lestrin, eh bien, la mort dans l'âme est obligé de se rendre compte que toutes ces divisions françaises rutilantes avec un personnel chevronné qui s'est bien battu, eh bien tout cela est anéanti ou très éprouvé. Et de l'Estrin va essayer de réutiliser les débris des divisions qui restent pour n'en faire qu'une. Mais l'état-major va s'y opposer.
C'est ça.
L'état-major ne comprend pas, on est contre. L'état-major s'y oppose. C'est dramatique. Demande d'armistice formulée par Pétain et entendue par de l'Estrin.
C'est ça.
Le 17 juin 1940. 18 juin. C'est de Gaulle depuis Londres.
L'appel du 18 juin
sera entendu par le général de l'Estrin au château de Valençay.
C'est ça.
Le château de Talleyrand, qui est superbe. Et sa décision est prise. Il va se mettre du côté de Gaulle. De son ancien subordonné,
bien sûr.
Charles de Gaulle. Il va quitter l'armée. Et il y a un moment, il va réunir ses équipages de chars, ou ce qu'il en reste un peu, parce qu'il y a eu des pertes, beaucoup de pertes humaine et matérielle, et il va leur adresser, c'est une adresse, un message. Et vous avez, Gisèle, ce texte de...
Celui-ci me désapproprié.
Ce texte...
La France s'écroule.
Ce texte-là, important, qui est beau et qui... Tout est dit, en somme.
Oui, c'est la signification d'un prochain au revoir.
Voilà, ils sont à Quélus, c'est ça.
C'est ça, le camp de Quélus.
Le camp de Quélus, dans le Tarn-et-Garonne, voilà. Qui est encore très beau comme camp.
Donc, il leur adresse ses adieux.
Voilà.
Alors, la France s'écroule aujourd'hui dans un désastre effroyable. La veulerie générale en est la cause. Il dépend cependant de nous que la France ne meure pas. De grands soucis, de durs sacrifices dont nous ne mesurons pas bien encore toute la portée nous attendent. Allons au-devant de ces nouvelles épreuves avec courage, avec énergie, avec confiance. Si nous conservons la foi dans les destinées de notre pays, si nous nous comportons en français et non avec une mentalité de chien battu ou d'esclave, si nous savons vouloir, la France ressuscitera un jour du calvaire présent. En vous faisant mes adieux, je dis à tous courage. Je répète à tous confiance, confiance encore, confiance toujours.
Merci. Donc c'est cette adressée, on peut le dire, à l'équipage. Il fait ses adieux.
C'est ça.
C'est Napoléon à Fontainebleau qui fait ses adieux à la Grande Armée.
C'est un peu ça, oui.
Au pied du bel escalier à double révolution que l'on va enfin rénover. Mmh. Et voilà. Et puis ensuite, on s'en va. Il redevient civil.
C'est ça.
Il ne peut pas rejoindre sa femme et sa fille, et ses deux filles, Odette et Bibiane, qui sont vers Arras dans le nord.
Parce que leur maison a tout été écroulée.
Oui, et puis les Allemands sont là-haut.
C'est ça, voilà.
Surtout ça, les Allemands sont là-haut. Donc il se retrouve là, dans le sud, que faire? Et il retrouve son ami Keller,
qui
était
Keller.
Inspecteur Louis Keller, qui était inspecteur des chars, qui est de Lunéville. Et son ami Keller, qui était inspecteur des chars donc, qui sera arrêté plus tard pour correspondance avec de Gaulle et qui sera déporté au camp de Buchenwald et qui décédera le 16 novembre 1944 des suites de dénutrition, de maladies et tout ça. Un type vraiment remarquable. J'ai eu quelques courriers de lui, c'est un visionnaire. Et donc...
De l'Estrin
lui dit « Où vas-tu ?» Et l'autre lui dit « Je suis nommé
à Bourg-en-Bresse.
Je m'en ai à Bourg, à la 7e région militaire. Et voilà, d'honneur te dire, voilà où j'en suis. Et toi ?» Et l'autre lui dit «
Je vais te suivre. »
Ça aurait pu être Bourg, comme ça aurait pu être Quimper, Carpentras ou Alençon.
Mais ils étaient en zone libre, là.
Ils étaient en zone libre, donc là... Mais ça aurait été à Marseille ou Bordeaux.
N'importe où.
À Bourg-en-Bresse. Okay. Eh bien, on y va. Et voilà. Alors, Keller, lui, est en mission, donc il a tout ce qu'il faut au point de vue matériel, mais de l'Estrin, là, il faut qu'il trouve à se loger.
Il n'y a rien du tout.
Alors, il va descendre un peu à l'Hôtel de l'Europe. L'Hôtel de l'Europe, que l'on connaît bien à Bourg-en-Bresse, qui est maintenant un établissement aussi.
C'est un bar, oui. Mais ça a d'abord été une salle des ventes.
Salle des ventes. Un grand hôtel, à l'époque, c'était l'hôtel de l'Europe
qui a été transformé en appartement. Après, il y avait la salle des bancs avant, et puis après, il y avait quelques commerces. Et maintenant, c'est le café des amis, comment ça s'appelle?
Au copain d'abord. Au copain d'abord, voilà. Donc l'histoire continue. Et là, maintenant, l'histoire a toujours soif. Hein. Donc il faut penser à ça, on va dire. Et donc il est là quelques jours. Et seulement, il va à la subdivision. Et on lui donne, parce que c'est pas n'importe qui. Hein. C'est le seul général qui a été promu après la fin de la guerre.
Hein,
c'est ça. C'est le seul général qui a été promu. Et donc, plusieurs étoiles. Et donc, il est quand même, on reconnaît, la subdivision sait qui il est. Et on lui déniche un appartement, boulevard Voltaire, un immeuble qui est d'ailleurs toujours, le 41. Et donc, boulevard Voltaire, voilà.
Et puis,
il y a une plaque, la première plaque a été apposée en 46.
Oui, après, pas au bon endroit.
C'est aussi au bon endroit, si, c'est à la place, c'était bon, mais il y avait, c'était en 46, on était encore sur le choc, on avait fait deux fautes, mais c'est pas méchant, Dachau, on avait écrit avec un S, ça c'est pas grave, mais on avait dit qu'il avait été lâchement fusillé.
C'est pas le cas.
Alors qu'après, on a su qu'il avait été, on va dire, assassiné, battu à mort et achevé d'une balle dans la nuque.
Voilà. C'est ça.
Oui, bon, bref. Et donc, le voilà dans cet immeuble, et il va faire venir sa femme et ses deux filles.
Voilà.
Et donc, le voilà burgien, il découvre Bourg-en-Bresse. Le mot, il faut s'habituer, Bourg n'est pas occupé, mais enfin, c'est la gare quand même. Et donc, on va inscrire les enfants à l'école, les deux filles à l'école. Ils vont aller au pensionnat du Sacré-Cœur, tout
c'est
près,
ça, oui.
dans le quartier de Bel-Air, c'est à côté. Et puis, on va se retrouver entre anciens combattants, les anciens des chars, parce qu'on se retrouve, il y en a beaucoup, puis ça se sait. Il y a le téléphone arabe, on va dire, qui circule. C'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas le portable, mais peu à peu. Et donc, il va essayer de regrouper les anciens des chars, et on ne va pas le faire chez lui, non, ça ne se faisait pas. Il y aurait trop de monde. Et il trouve un terrain remarquable, rue Notre-Dame, au 13, c'est le fameux café Lansard.
Oui, qui a disparu d'ailleurs.
J'ai connu, moi, le café Lansard. Moi, je me souviens très bien, c'était un très beau café avec des peintures, des tableaux de maîtres, de peintres régionaux.
C'est vrai.
Il y avait deux grandes salles, une grande salle et puis une plus discrète au fond. C'est là que les anciens...
Et ce café a été reconstitué...
Il est reconstitué, chez la famille Perrin, Jasseron.
Jasseron, on peut retrouver ça.
Voilà,
là-bas.
C'est un musée, il y a le mobilier de l'époque,
tout
le café d'avant, les cendriers,
voilà.
tous les bois, les bouteilles d'eau de Seltz. Enfin, c'est très beau. Et donc, c'est là qu'il va se retrouver. Ben, c'est un café qui est connu à Bourg parce que c'est un café qui est le siège social de nombreux syndicats. Il y a maraîchers, il y a les fromagers, il y a la société de tir de Bourg, il y a l'aéroclub de Bourg, il y a les hôteliers, il y a les restaurateurs.
Ils se retrouveraient tous là.
Donc, tous les anciens des chars se retrouvent au café Lansard. Et le patron, c'était Louis Archibald
Lansard,
un grand monsieur qui avait beaucoup de...
Prestance,
d'allure, et qui avait une voix très forte parce qu'il avait perdu Louis à Verdun.
Donc, il ne s'entendait pas parler.
C'était quelqu'un de très gentil et j'aimais bien le rencontrer, en discuter. Il impressionnait, mais il avait très bon cœur. Et c'était un homme d'affaires. Donc, on a parlé de l'Hôtel de l'Europe, on a parlé du Café Lansard. Mm-hmm. Il y aura aussi, il y a la basilique Sacré-Cœur, le pensionnat de Sacré-Cœur.
Il y a
la gare aussi qui va le voir beaucoup passer, la gare.
Parce qu'il va aller à Lyon.
Il va à Lyon puis à Paris, donc il circule. Voilà, nous ne sommes pas occupés, il bouge. Il va être en relation peu à peu avec De Gaulle qui est à Londres et qui a entendu dire qu'il y avait un général qui s'occupait de chars, qui faisait de la résistance. C'est le fameux message que De Gaulle a envoyé le 28 août 1942 de Charles à Charles d'accord.
Oui.
Et il va être comme ça chef de l'armée secrète. Et il y a des messages qui vont arriver à Bourg et que le secrétaire du général de l'Estrint, le futur docteur Guillain, va mettre dans une bouteille et il ira enterrer cette bouteille avec le précieux message dans le jardin qui est derrière le jardin qui appartient à sa mère derrière l'immeuble qui se trouve à Bourg, au 16-14 boulevard Maréchal Leclerc, voilà, au Champ de Mars. Après, il récupéra tout ça. Maintenant, il n'y a plus de jardin, il y a des garages.
Des garages.
Mmh. Et il y avait les jardins municipaux toujours à côté. Maintenant, ça a changé.
C'était des espèces de jardins ouvriers?
Oui, oh, pas tellement ouvriers.
Pas tellement,
non, non, pas tellement ouvriers, mais c'était bien placé, c'était bien. Donc, ces messages vont dormir en terre burgienne pendant quelques années. Voilà. Et donc, il y a la gare, on a dit qu'il y avait la gare, parce qu'il circulait beaucoup. Il y avait donc...
Au-dessus du prieuré aussi.
Alors, au-dessus du prieuré. Le prieuré,
oui,
ce n'est pas le prieuré de Brou. Hein.
Non.
C'est la pâtisserie qu'on appelait Sarlenivon.
Sarlenivon.
Avec des cadeaux pour Noël et des gâteaux merveilleux.
C'était très bien.
C'était très bon. Oui, j'en ai mangé quelques-uns. Et voilà, maintenant, il y a une banque. Maintenant, c'est fini.
C'est ça.
Voilà, il n'y a plus que le souvenir. Et alors, au-dessus de ce café, il y avait les bureaux de Monsieur Fournier, qui présidait une compagnie d'assurance, l'Union. Et puis donc, il avait mis à disposition son bureau. Il faisait partie de la résistance, sa famille aussi. Et donc,
c'est là qu'on réunissait les amis.
Et il y a eu une belle réunion le 10 février 1943. Le général de Lestrin a accueilli de Lyon l'architecte Pierre Dalloz, le commissaire Yves Farge.
C'est ça.
Et puis le général Demaze, qui était sur Bourg aussi, mais qui était intéressé. Et ils sont venus passer quelques heures à Bourg. Parce que...
C'est là que va se décider l'opération Vercors, c'est ça?
Voilà, l'histoire du Vercors,
oui.
Pour faire un maquis au Vercors, en prévision d'un débarquement en Normandie, mais qui va avec la Provence, pour que faire un grand maquis du Vercors, l'étude de terrain...
C'est qui va se réaliser, d'ailleurs.
Qui va se réaliser, mm-hmm. Et on peut dire que, sur le papier, c'est... avec de Lestrin qui est allé sur place voir un peu ce que l'on pouvait faire. C'est un officier, un militaire, donc il avait fait de l'infanterie, Saint-Cyrien, école de guerre, il sait de quoi on parle, pour essayer de voir comment on peut faire pour avoir un maquis digne
de ce
nom.
Mais oui, parce qu'il y a des massifs qui sont absolument difficiles.
Le terrain...
C'est véritablement une forteresse naturelle.
Tout à fait. C'est une forteresse naturelle. Oui. Utiliser le terrain au maximum.
C'est ça.
Malheureusement,
prévoir des atterrissages d'avions.
Des atterrissages, ce qui s'est passé. Malheureusement, après, disons que les Alliés ont moins suivi, sachant pas trop. Et en face, nous avions des troupes autrichiennes de montagne qui étaient des troupes aguerries et donc qui étaient des spécialistes armés... redoutablement, alors que nous, c'était moins ça. Et malheureusement, le Vercors a été un échec.
Terrible.
C'était un échec terrible. Mais c'est à Bourg que cette idée avait trouvé son début dans l'esprit de Pierre Dalloz, de Jean Prouveau, qui était un écrivain aussi, spécialiste de Stendhal. Et cette idée avait mûri pour en faire vraiment un camp retranché, parachuter des commandos, etc. L'idée était excellente. Seulement, il fallait que l'intendant se suive.
Et ça n'a pas suivi.
Et ça n'a pas trop suivi. Et qu'en face, on soit capable de tenir tête au régiment spécialisé d'Autriche, de Bavière et d'Allemagne, qui, eux, mettaient le paquet, malheureusement. Malheureusement. On va un peu s'arrêter et après, on va aller au bord de la mer maintenant avec Sleepy Lagoon, quelques instants de musique après tous ces bruits, toutes ces rumeurs de guerre, un peu de rêverie nous fera du bien. Un peu de calme nous fera du bien.
Thank you.
Nous nous retrouvons avec Gisèle Brun aujourd'hui et avec le général Charles de Lestrain à l'occasion du 75e anniversaire de la commémoration de la libération de Bourg-en-Bresse. Oui. Le général de Lestrain avait séjourné à Bourg du mois de juillet 1940 à novembre 1942, lorsque la deuxième partie de la France a été envahie ensuite par l'armée allemande. Il était donc burgien d'adoption, c'était beaucoup plus chez nous, mais bon, ses activités faisaient que parfois il se sentait un peu peut-être à l'étroit, peut-être un peu surveillé.
Il était sûrement surveillé.
C'était quelqu'un de 1879, donc pour lui, il a fallu qu'il se mette un peu, on va dire, au diapason. Et ce n'était pas facile de vivre dans la clandestinité tout de suite. Peut-être plus jeune, on s'adapte, mais bon, il avait son appartement, il menait une vie de famille.
Il essayait,
mais enfin, il était plus facilement repérable avec sa femme et ses enfants. Les enfants, tandis que d'autres, comme Jean Moulin, qui était seul, qui était plus jeune, plus souple, et qui savait qu'il ne pouvait jamais dormir deux fois de suite
au même endroit.
Alors que de Lestrain était chez lui, c'était un peu connu, et il a été obligé ensuite, d'autant plus que la résistance battait son plein, tout n'allait pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, il y avait des sensibilités différentes, qui venaient de droite, de gauche, du nord et du sud.
Il n'y avait pas beaucoup d'entente entre eux.
Voilà, l'entente était parfois difficile, la politique, les caractères, les idées, rien de nouveau sous le soleil, on va dire. Donc parfois, c'était pas facile. Et c'était lui, le chef de l'armée secrète.
C'est ça. Alors, c'est le général de Lestrain qui soumet au service français de Londres, qui demande pour l'armée secrète et qui donne leur accord. Et c'était le message qui a été diffusé sur les ondes de la BBC, le message suivant. Les montagnards doivent continuer à gravir les cimes.
Voilà. Les montagnards, il faut continuer, quoi.
Continue
à gravir les cimes. Mm-hmm. Les mots sont forts, les cimes. Et oui, donc, effort, il faut continuer, malgré la bagarre, malgré les sous-entendus. Il y avait déjà l'occupant, c'était pas rien. Et puis en face, il y avait les chers amis. Il était pris entre les deux.
C'est ça.
C'est difficile. Et donc, et le voilà qui est à Bourg, et puis il va quand même quitter parce que il voit mieux.
Mais il va faire des allers-retours Lyon-Bourg
Il fait des allers-retours. Mais c'est quand même, ça devient risqué.
Ça devient de plus en plus risqué.
Il faut jouer avec les horaires de train. Il faut.
C'est ça. C'est pour ça que c'est près de la gare, en fait, qu'il s'était installé.
Alors, il s'est installé à Bourg, l'immeuble était près de la gare, comme vous savez. Et à Lyon, son secrétaire va trouver un petit appartement non occupé en partie par de la famille, qui est près au bord du Rhône, à côté du pont Gallieni. Vous connaissez Lyon, bien sûr. Et c'est un immeuble aux 4 rues...
Avenue Leclerc.
Leclerc, c'est un vétérinaire. C'est pas le jeu maréchal.
C'est ça, ouais.
Et alors, il va y rester. Et il est tout près de la Gestapo, finalement, puisque derrière, il y a l'école de santé.
Cours de la Liberté, c'est pas très loin.
Voilà.
La Gestapo était là.
Ils sont tout près, donc il est pas loin. Mais il pensait que d'être proche, ça pourrait lui servir. Enfin, bref. Et donc, nous voici au mois de février. Donc, il y a la fameuse réunion dont nous avons parlé sur le Vercors. Et puis ensuite, il va partir à Londres. Il faut voir De Gaulle. De Gaulle est réaliste. Il se rend bien compte que ça va être très difficile, car le général de Lestrain part avec Jean Moulin. Et après, ils repartent pour la France et pour la mort, comme
c'est
il dit.
Ça, ouais.
Il voit très vite, c'est très bien qu'il ne les reverra jamais. Si Jean Moulin est arrêté plutôt à Caluire le 21 juin 1943, ainsi que
André Lassagne, ils étaient plusieurs,
une prise terrible pour la résistance. Eh bien, c'est le 9 juin que le général Le général de Lestrin, lui, va être arrêté à Paris.
Oui, c'est ça, à Paris, parce qu'il a monté à Paris.
Parce qu'il y a eu toute une escalade, tout un jeu de numéros. Il y a eu la trahison, la légèreté, l'imprudence peut-être aussi. Et puis en face, nous avons des services.
Des experts.
On a des experts, c'est le terme d'aujourd'hui.
C'est véritablement des experts.
Des experts méthodiques, organisés, qui comprennent le français. Donc c'est très difficile de...
Puis ils ont su...
De passer à travers les mailles du filet.
Mais c'est vrai, voilà.
Et donc, eh bien, trahison, la trahison commence à Marseille. Marseille, qui était très important, c'est un port, on rentre, on sort. Et la surveillance allemande, nazie, était très forte à Marseille, plus forte qu'à Lyon. C'est après que Lyon va devenir
une capitale,
plaque tournante importante. Et donc, eh bien, le 9 juin 1944, eh bien, c'est là qu'il va être, que le général va être arrêté par un traître, par des traîtres. Les Allemands sont là aussi.
Bien sûr.
Il va être embarqué en douceur, on va dire aujourd'hui. On va être en douceur et ensuite pour être emmené à avenue Foch à Paris, où il y avait les services et tout. Et il va être ensuite transféré à la prison de Fresnes. Il va être arrêté au métro appelé La Muette,
La Muette.
Et vous avez toujours, à la sortie du métro, vous avez une plaque à droite qui est apposée au mur à côté d'une pharmacie. Et puis, il y a un drapeau français aussi. Et, bon, les gens regardent, mais ne savent pas trop. Ceux qui savent...
Vérifie, il faut attention, oui, c'est vrai.
Voilà. Mmh. Et donc, ce matin-là, il part, il avait un rendez-vous, un taxi devait le prendre. Tranquille, et les Allemands l'attendent. Les Allemands sont en civil, organisés. Puis comme ils savent que pour eux, c'est un adversaire de poids...
Et ils le connaissent,
ils se disent, il va être normalement escorté,
protégé. Oui, et non,
protégé.
Il n'était pas du tout.
Ils sont logiques. Alors, les autres sont planqués, voilà, et puis ils voient ce bon papa, ce bon grand-père,
tout seul,
avec un cartable à la main, qui marche tranquillement, droit, parce qu'il avait une certaine allure, il était petit, mais il avait beaucoup d'allure militaire, et ils sont un peu surpris, et puis les Français qui vont les traîtres, quoi, Judas.
C'est ceux-là qui vont le donner.
Voilà, ils vont l'attirer dans un guet-apens, on monte dans la voiture, conduite par des Allemands, et le tour est joué, il comprend, mais c'est trop tard. Le voilà à Fresnes. À Fresnes, s'il est connu, il va subir des interrogatoires musclés, mais enfin, un peu respectueux. On sait qui c'est un militaire. Mmh. C'est un militaire, à la différence de Jean Moulin, qui n'était pas un militaire.
C'est ça. Ouais.
Et qui est tombé sous la patte de Klaus Barbie. Hélas,
la pire.
Ça ne veut pas dire qu'à Paris, c'était plus doux.
Non,
hein.
Non.
Mais enfin, bon. Et puis, il connaît l'allemand, il en impose. Il en impose. Le séjour va pas être comme dans un hôtel à Côte-Étoile, hein, la cellule numéro 101. Mais c'est quelqu'un en plus, c'est très important, qui a une foi profonde.
C'est ça.
Une
Donc
foi
c'est ce qu'il
religieuse.
A aidé. Il s'est maintenu quand même grâce à ça aussi, c'est vrai.
C'est un homme de foi. Il fait partie du tiers-ordre de Saint-François d'Assise depuis 1900. C'est-à-dire, il n'a pas prononcé des vœux, mais c'est un laïc qui est un peu plus proche de la religion.
C'est ça.
Voilà. Et donc, ça va l'aider toute sa vie, et à la fin, elle sera difficile. Et donc, le voilà à Fresnes pendant juin-juillet 1943, jusqu'au 10 mars 1944. Après, bon, il va là-bas, il va s'occuper à Fresnes, il va être le représentant des Français, il a une certaine influence, quoi. Il voit
du
monde.
Il va aider quand même, pas mal.
Il va aider. Oui. Certains geôliers allemands se prennent un peu de sympathie pour lui.
Mmh.
Il voit que c'est pas n'importe qui, ce grand monsieur, si on peut dire, et pas ce monsieur grand. Et donc, après, il va. Les Allemands vont, comme il est quand même une personnalité importante, il va, et c'est un militaire, et qui fait de la résistance, il tombe sous le coup du décret du 7 décembre 1941, signé par les Allemands.
C'est ça.
Keitel, le maréchal Keitel, avait dit, voilà le texte du décret, « Toutes les personnes représentant un danger pour la sécurité de l'armée allemande seraient transférées en Allemagne et disparaîtraient à terme dans un secret absolu. » Signé Keitel. Et le nom de code de ce texte, c'est NN. NN, Nacht und Nebel en allemand,
nuit et brouillard.
C'est ça, voilà. Nuit et brouillard. Cette expression, vient d'une expression allemande qui veut dire disparaître comme enchantement.
C'est ça, par enchantement.
C'est
oui.
une expression qu'on peut utiliser, ça fait partie de la langue allemande, c'est ça. Disparaître comme ça, comme par hasard. Et c'est aussi une expression que l'on retrouve chez Wagner, Richard Wagner, 1813-1883, donc il n'a pas connu le nazisme, pas du tout. Et c'est lui qui écrivait les textes de ses opéras, la musique aussi. Et donc, dans L'Or du Rhin, 1869, eh bien, il parle des nains, enfin de la légende germanique, qui disparaîtront dans la nuit, le brouillard. Donc les Allemands,
ont utilisé
fidèles à eux-mêmes, romantiques en même temps,
c'est vrai.
Ils ont donc les.
Ils se sont appropriés.
Ce sont des NN. Et donc, de l'Estrin est classé NN, c'est-à-dire il disparaîtra un beau jour. Voilà. Et donc, le voici au camp du Struthof. On le met au camp du Struthof. Le Struthof, c'est un des deux camps alsaciens, des camps de concentration d'Alsace. Il y a le Natzweiler, dit le Struthof, et le camp de Schirmeck aussi. Il y a deux camps de concentration. C'est un camp d'extermination. Hein.
C'est ça.
C'est un cadre magnifique. Les Allemands avaient généralement le choix pour trouver de beaux paysages. Ils l'avaient mis au nord, donc les pauvres gens en hiver devaient se geler encore plus. Et il était en pente en même temps. Donc les travaux forcés en pente, remonter des pierres, des rochers.
C'est terrible.
C'était vraiment du cynisme, etc., etc. Et donc là, il va être quand même un peu le chef du camp aussi. C'est un général, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe qui. Et puis, du 10 mars 44 au 4 septembre 44,
oui.
Donc le même jour que la libération de Bourg, si vous voulez, eh bien, il va être dans ce camp du Struthof. Il va être au Struthof. Beaucoup de généraux, de militaires vont mourir d'épuisement, général Frère et tout. Les SS en donnaient là sa cœur joie. C'est un camp très dur. C'est un camp, pas de représailles, mais d'extermination, tout est dit. Et puis, il y a eu le débarquement en Normandie. Il y a eu le débarquement aussi en Provence. Les Alliés avancent et les Allemands s'aperçoivent qu'il va falloir dégager. Et donc, le camp de Struthof va connaître le vide et puis il n'y aura plus personne. On déménage avec armes et bagages, si je puis dire, du 1er au 4 septembre 1944. Ça fait que le jour où Bourg était libéré, eh bien, au même moment, le général de l'Estrin était dans un wagon en bestiaux.
Pour aller à Dachau.
Avec 905 autres détenus. Alors, ils sont partis de Compiègne, c'était une immense gare, entre guillemets, de triage, entre guillemets, hein. Compiègne, ensuite Karlsruhe, on passe le Rhin, ensuite Ulm, on passe le Danube, Augsbourg, et on arrive en gare de Munich et après la gare de Dachau. Dachau, c'est très connu dans l'histoire de la peinture allemande. C'est comme nous avons l'école de Barbizon.
Barbizon, oui.
Eh bien, Dachau, heureusement qu'il y a ça. C'est avant tout, c'est une école de peinture.
C'est une école
Il y avait
de peintre,
une colonie de peintres parce que les couchers de soleil sur la forêt de sapin étaient très beaux. Et comme Munich est une ville d'art aussi, il n'y a pas que la bière, eh bien à Dachau, il y avait des colonies. Et le week-end, beaucoup de peintres venaient passer le week-end et travailler pour peindre. Il y avait des ateliers. L'embêtant, c'est qu'après, il y a des fous qui ont changé un peu la direction. C'est très embêtant et très triste. Et c'est une tragédie pour Dachau. Maintenant, les jeunes femmes reviennent accoucher à Dachau. Mais pendant très longtemps, elles refusaient pour ne pas que sur l'acte de naissance...
Ce soit marqué « né à Dachau ».
« Né à Dachau ». Maintenant, ça revient un petit peu. Maintenant, vous voyez, hein, attention. Et donc, le voici donc, il avait débarqué à Dachau.
C'est ça.
Voilà, NN, c'est-à-dire, il est appelé à disparaître.
C'est ça,
jour.
Il doit mourir.
Et puis, là aussi, il devient un peu le président, le chef des Français. Il y a 17 nationalités.
Oui,
il y a un monde
vrai.
Fou. C'est un des gros camps d'extermination. Il y a des prêtres, il y a des Allemands, il y a des Europe centrale, il y a, il y a tout un, il y a même des juifs aussi, c'est un, il y a tout le monde, et c'est terrible parce que ça sent un peu la fin, et c'est la panique qui s'installe même du côté des Allemands aussi. Les SS commencent à paniquer et tout, ils sentent que les autres arrivent, et là les actes de, je dirais, de barbarie, gratuite, sont au maximum, comme vous dites, et tout. Et donc, il va survivre comme il peut. Hein. Il est quand même un peu âgé aussi, on mange presque rien. Il souffre beaucoup de furonculose aussi. Parce qu'il est dans un bloc où l'hygiène n'est pas très nette. Il est quand même dans un bunker, le Ehrenbunker. Il est dans un bunker qui rassemble des personnalités politiques, religieuses, intellectuelles. On peut parler, on peut essayer de refaire le monde, quoi. Hein, il va à la messe le matin. Le matin, il s'arrange pour aller à la messe très tôt. C'est pas évident parce qu'il y a les sentinelles qui sont là. Il survit aux séances d'appel.
Et oui, il les laisse pendant éternellement. Pendant des heures.
Dans le froid et tout. Et c'est une machine à tuer terrible, ça. Il a une bonne santé, heureusement.
Ils sont dépouillés de leur vêtement, ils sont tondus. C'est quand même des conditions abominables.
Ils n'ont plus de nom, ils ont des matricules. Ils ont des matricules. Il faut faire très attention à ça. Ils ont des matricules. Et donc, arrive un peu le mois d'avril, où l'avance alliée devient de plus en plus forte, plus en plus présente. Il y a eu la campagne d'Alsace qui a été très rude parce que plus on s'approchait d'Allemagne, plus les Allemands résistaient.
Ce
qui est logique. On défendait la terre, le pays, là aussi. Il y avait des jeunes Allemands qui se sont fait massacrer aussi pour défendre ce qui restait du pays. Voilà. Et donc, il va assister le 19 avril au matin, il assiste à la messe comme il faisait tous les matins. Et puis, des officiers SS lui disent de préparer une valise. Il y a tout un genre de simulacre de jeu. Il prépare une valise, il s'en rend bien compte, il y a quelque chose de louche là-dessous. On l'emmène, et puis il va être battu à mort et tout. Et puis ensuite, finalement, achevé d'une balle dans la nuque, ou de deux balles. Bref, deux officiers SS, les nommés Bonngartz et Trenkel.
On connaît quand même les officiers.
Oui, je les connais. Bonngartz et Trenkel qui seront ensuite neutralisés par les Américains qui arriveront 10 jours plus tard. Malheureusement, 10 jours plus tard. Et donc, le corps va être dépouillé de ses vêtements et puis va être brûlé. Voilà, brûlé, il ne restera plus rien. Si bien qu'il sera fait compagnon de la Libération à titre posthume. Et le 10 novembre 1989, il y aura une belle cérémonie au Panthéon où son nom va entrer au Panthéon.
C'est ça, voilà.
Son nom, simplement, une très belle plaque.
Oui, puisqu'il n'y avait pas le corps.
À côté de Guynemer, Henri Bergson. Et Antoine de Saint-Exupéry.
C'est vrai, ils sont à côté.
Voilà, ils sont à côté, ils ne sont pas là.
Mais non.
Mais il y a le nom. Et la nouvelle est passée inaperçue parce que ce soir-là, inouï de l'histoire, le mur de Berlin est tombé. Donc pour le monde, c'était plus intéressant de savoir que le mur de Berlin tombait. Donc là, les deux Allemagnes, vont revenir en une seule, si on peut dire. Et puis, le pauvre de Lestrin, voilà ce qu'il en est advenu. Et ensuite, une de ses filles a retrouvé un texte. Un texte qui était dans les pages de son missel, rappelant qu'il était très pratiquant. Il allait à la messe tout le temps, sa foi, sa façon de penser. Et il avait écrit une sorte de testament qui a été retrouvé et que Gisèle va nous lire avec émotion.
« Me désapproprier de moi-même, vivre intensément pour Dieu, à qui je confie ma famille, tous ceux qui me sont le plus cher, pour ma patrie, pour mes frères. Vive libre et joyeux, patient, en dépit de la botte allemande et de l'étouffement français. Être exact. »
Être exact, merci. Voilà, être exact, c'était le nom de la promotion de Saint-Cyrien, général de Lestrin, être exact, voilà. La fin est très belle et simple, être exact. Ce sont ces phrases écrites en août 1942, retrouvées dans son missel. Et quand vous allez au Struthof, le guide vous parle, vous trouvez place générale de l'Estrin. Sur la plaque, on peut lire « Chef de l'armée secrète déporté au Struthof du 8 mars au 5 septembre 44 ou 4 septembre, bref, mort pour la France le 19 avril 1945 ». Et un de ses amis à Dachau, le révérend père Riquet, qui est un jésuite qu'il avait bien connu, disait être prêtre pour de l'Estrin, c'était ça, être prêtre très tôt le matin et assister à la première messe afin de puiser en ce jour la force d'être parmi le tout venant des déportés, venant de 17 nations, le mainteneur du moral et l'entraîneur à la joie. Voilà, il était toujours, c'était tout à fait de l'Estrin, calme, on va dire calme, la grandeur, la dignité, la sérénité, et il faisait sienne ces paroles du cardinal anglais Newman, allégresse, donc dans la vie, la joie,
oui.
La joie, mais aussi l'humilité, et voilà ce qu'on peut dire du général de l'Estrin aujourd'hui, et auquel nous pensons ces jours-ci, car il a été vraiment quelqu'un qui a marqué, et à Bourg, on commence encore maintenant à découvrir un peu ce général.
C'est ça.
La Société d'émulation de l'Ain, dont vous faites partie, dont nous faisons partie, Gisèle, eh bien, a édité un livre récemment par M. Alain Gros et moi-même, Charles de l'Estrin, l'homme, les chars, le résistant, l'armée secrète, chef de l'armée secrète. C'est un livre au prix de 15 euros que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies de Bourg-en-Bresse. Et il y a un livre important aussi, les Purgiens apprécieront, de M. Paul Morin, que tout le monde connaît à Bourg. J'ai eu 20 ans à Dachau, que l'on retrouve aussi, c'est un souhait de la mairie de Bourg d'avoir fait rééditer cet ouvrage avec de nombreux renseignements sur la période de la résistance. J'ai eu 20 ans à Dachau, que vous trouvez aussi un livre bleu. La couleur a été choisie par M. Morin. Eh bien, on peut retrouver ce livre et vous aurez donc le parcours de notre ancien maire qui fut aussi instituteur, professeur.
Je l'ai offert à ma fille.
Eh bien, c'est très bien.
Parce qu'il était directeur de son école, enfin à Amiot.
À Amiot, voilà. Donc, il fut aussi principal au collège de
voilà,
Amiot.
Voilà, c'est ça, principal.
Instituteur. Donc, j'ai eu 20 ans à Dachau de M. Paul Morin, que vous pourrez retrouver à Bourg, et Charles de l'Estrin, de la Société d'émulation. Maintenant, un peu de musique américaine, car il ne faut pas les oublier aussi, ils nous ont aidé beaucoup quand même. Merci à Pauline à la technique. Merci Gisèle pour tout le travail de recherche que vous avez fait. Et puis, bonne journée, au revoir, à bientôt.